France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. Le duel entre le Rassemblement national et la majorité gouvernementale a été remporté hier par le parti d'extrême droite de Marine Le Pen, premier aux élections européennes en France. Il recueille 23,4% des voix, selon l'estimation de notre partenaire Ipsos Soprasteria. Deuxième donc, La République En Marche, associée au Modem, avec 22,4% des suffrages. Et la surprise vient d'Europe Écologie Les Verts, qui se classe troisième avec 13,2% des voix, loin derrière. Il y a le parti Les Républicains qui est finalement quatrième, crédité d'un peu plus de 8% des suffrages. Notez que le parti socialiste et Place Publique sauvent leur place au Parlement européen avec 6,4% des voix. Score identique et grosse désillusion pour la France insoumise. Dans le reste de l'Europe, plus globalement, le camp pro-Europe se fragmente, mais il continuera à contrôler près des deux tiers du Parlement. Quand les conservateurs du PPE, le Parti Populaire Européen, et les socialistes démocrates perdent du terrain, les centristes libéraux et les écologistes gagnent parallèlement du terrain. Notons d'ailleurs qu'en Allemagne, les Verts arrivent en deuxième position. L'extrême droite, par ailleurs, progresse, elle, avec les victoires de l'Italien Matteo Salvini, du pro-Brexit Nigel Farage au Royaume-Uni et du Fidesz du Hongrois Viktor Orban. Enfin, les responsables européens se sont tous félicités hier de la forte mobilisation de l'électorat en Europe. Le taux de participation a dépassé les 50%. Il a augmenté pour la première fois en 40 ans à l'échelle du continent. En 2014, ce taux de participation était tombé à son plus bas niveau historique, sous la barre des 43%. Enfin, l'actualité de ce lundi matin, elle est également marquée par une prise de parole de Donald Trump. C'était cette nuit, lors d'un sommet à Tokyo avec le premier ministre japonais Shinzo Abe. Le président américain a déploré un énorme déséquilibre commercial avec le Japon, tout en estimant qu'une solution était possible. Il a aussi dit son respect pour la Corée du Nord. Et il a adouci le ton sur la question iranienne, proposant à Téhéran d'en parler.
10 minutes par semaine pour comprendre un échec. Guillaume Herner.
Super Fail, le magazine de l'erreur, parce que l'on a toujours au moins une bonne raison de se planter. Un échec analysé chaque semaine, Super Fail, c'est à podcaster tous les lundis, sauf si ça plante.
Super Fail, Guillaume Herner, en podcast et en podcast seulement sur franceculture.fr.
Il est 6h03, vous écoutez France Culture, nous retrouvons Toufik Hakem.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Elle a été la reine des salons littéraires et artistiques dans le beau Paris du 19e siècle, inspirant aussi bien les poètes et les écrivains que les peintres et les sculpteurs. Apollonie Sabatier, dite la présidente, est au centre d'un premier roman documenté édité chez Arléa. Baudelaire et Apollonie, tel est le titre de l'ouvrage de mon invité Céline Debel, et également présente avec nous ce matin Oriane Jeancourt du magazine Transuge. Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci de votre fidélité. Le réveil culturel, c'est parti.
Le réveil culturel. Lundi, livre.
Bonjour Céline Debel.
Bonjour.
Alors, il y a un sous-titre à votre ouvrage Baudelaire et Apollonie, le rendez-vous charnel.
Oui, parce qu'en fait, c'est le sujet du roman. Le rendez-vous charnel, ça commence le soir. Baudelaire rencontre Apollonie et ça se termine quelques heures plus tard. Et là, beaucoup de choses changent pour Baudelaire et pour Apollonie. Parce que Baudelaire a été amoureux fou, idolâtre d'Apollonie Sabatier.
Il n'était pas le seul.
Non, il n'était pas le seul. Il y en avait beaucoup, dont Théophile Gautier, Flaubert, etc. Il y en a beaucoup. Et pendant 5 ans, il était amoureux fou. Il lui a écrit des poèmes qu'il lui envoyait par la poste, par courrier. Apollonie lui a inspiré 10 poèmes qui sont dans les Fleurs du Mal. Il lui a envoyé avec une écriture déguisée, avec des poèmes anonymes parce qu'il avait peur du ridicule. Comme toujours Baudelaire, et elle avait compris. Au début, elle croyait que c'était une blague de Gautier ou de Nerval, et très vite, elle a compris que c'était Baudelaire. Ben, elle le disait pas, parce que elle tenait donc ce salon chez elle le soir à Paris, le dimanche soir, il y avait un dîner, puis après on passait au salon. Et il y avait beaucoup de monde, dont Flaubert, Théophile Gautier, Baudelaire bien sûr et d'autres. Et Baudelaire avait toujours peur qu'elle révèle que c'était lui, l'amoureux masqué, ce dont il aurait eu honte.
Il était son amour ou des lettres d'amour qu'il lui envoyait?
Des deux, mais des lettres d'amour. Il avait peur du ridicule. Du ridicule, c'était le dans les lettres qu'il lui envoyait les poèmes. Il lui disait toujours Vous allez peut-être pas aimer, c'est ridicule, mon torchon est ridicule. Enfin, pas ces mots-là, mais dans ce genre. Il était toujours très, très inquiet de ça. Et puis, pendant 5 ans, donc, il venait au dîner avec ses autres amis du monde de la peinture, des beaux-arts, donc, et de la littérature. Et puis, il y a eu ce fameux procès, avec le verdict le 20.
Autour des Fleurs du Mal,
pour le procès du Fleurs du Mal.
Et il a demandé à Polony de venir témoigner.
Il a demandé à Polony de lui préparer une lettre de soutien, parce qu'il avait, lui, Flaubert avait eu, début de l'année, un procès, il avait été soutenu par l'impératrice Eugénie. Et 2 jours avant, Baudelaire a paniqué, il a dit, mais moi, je n'ai personne. Et il lui a envoyé une lettre, il lui a dit, il me faut une femme, cette fameuse lettre qui est donc reproduite dans le livre. Et il a pensé à Polony, qui a essayé de lui trouver quelqu'un, mais un artiste, mais ça n'a pas donné grand-chose. Malheureusement, les fleurs ont été condamnées, une amende de 300 francs.
Oh là là, mais quelle précision! À vous entendre comme ça ce matin, Céline de Bel, on a l'impression que vous êtes universitaire, historienne. Et ce que vous racontez dans ce livre, et que je trouvais ça très touchant, c'est que la rencontre, votre rencontre avec Polony ne se fait pas d'ailleurs dans les textes. Dans les poèmes de Baudelaire, elle se fait quand vous allez découvrir une des sculptures la représentant.
Tout à fait. Je suis passionnée d'art, donc je suis toujours souvent dans les musées. Et cette sculpture, femme piquée par un serpent, qui est au musée d'Orsay, à marbre, qui représente une femme qui est contorsionnée, qui se tord, enfin qui a la tête en arrière, les reins cambrés. Je me suis étonnée, je me suis dit, mais qui a pu poser... Qui a pu être le modèle de cette sculpture? Et j'ai découvert Apolline Sabatier, qui elle-même était la muse de Baudelaire, qui lui inspirait 10 poèmes dans Les Fleurs du Mal, etc. Et donc j'ai dit, voilà, je vais partir de cette sculpture. Et
mais alors, qu'est-ce qu'elle vous a inspiré, cette sculpture? Quelle est l'image du modèle que vous faisiez à partir de la sculpture vue au musée d'Orsay, Céline Debelle?
Je trouvais déjà que c'était une femme audacieuse d'avoir posé pour cette sculpture à l'époque. On est en 1847, la sculpture a été exposée au salon de 1847. J'ai dit, mais quel modèle a pu oser poser ainsi? Et j'ai découvert par là donc Apollonie, qui elle-même est une femme audacieuse, libre et très en avance sur son temps, qui est une femme remarquable, qui a été traitée de courtisane depuis un siècle et demi dans toutes les biographies. Et je ne trouve pas que ce soit une courtisane, c'est simplement une inspiratrice des peintres et des poètes, comme vous l'aviez dit, qui tenait un salon, qui présidait un salon. Donc elle arrivait avec tous ces gens brillants, tous ces génies du milieu du tournant du 19e, elle arrivait à maîtriser les conversations, à les animer, etc. Il y avait, la plupart du temps, c'était des hommes qui étaient là, donc c'était important, et tout le monde la respectait. C'est une femme extrêmement respectée, aimée, adorée par tous ces hommes-là. Flaubert l'adorait, d'ailleurs il s'en est inspiré en partie pour la maréchale de l'éducation sentimentale. Gautier l'adorait, c'était une amie, plus qu'une amie. Il lui a écrit 2 poèmes, La robe rose et Apollonie, qui sont dans ses recueils de poèmes. Et aussi une lettre qui s'appelle Lettre à la présidente, qui est une lettre érotique qu'il lui a envoyée.
Enfin, ouais, faut dire qu'elle était très belle, Apollonie.
Très très belle, il suffit d'aller voir les sculptures au musée d'Orsay. Il y a un buste d'Auguste Clésinger qui est magnifique. Et puis cette fameuse sculpture où elle est nue, c'est un marbre nu, où là on la voit, et elle est très très belle. Elle avait beaucoup de charme, elle était intelligente, cultivée. Elle avait réussi à rassembler autour d'elle tous ces gens, ces poètes, et ces peintres, et ces hommes de lettres de l'époque. Donc elle avait un énorme charisme et elle était aimée et respectée par tous ces gens-là.
Alors c'est ce qui est complètement passionnant dans votre livre, c'est la partie documentée. Parce qu'en fait, Céline Debelle, vous faites un portrait en creux de Apollonie, hein, c'est-à-dire que Baudelaire, le pauvre Baudelaire, il vous sert de prétexte.
Oui, parce que Baudelaire, on le connaît, mais j'ai quand quand même voulu parler de Baudelaire sous un autre angle, dans un moment un peu particulier de sa vie. C'est une semaine jour pour jour après le procès.
Il est très vulnérable.
Très vulnérable, anxieux, indécis, regrettant ce qu'il a fait, etc. Enfin, Baudelaire, toujours dans les paradoxes. Baudelaire, amoureux, idolâtre, et à la fois misogyne, il sait être les deux, comme tout ce qu'il fait. Alors, on a longtemps dit que c'était un fiasco, ce rendez-vous charnel. Ce n'est pas un fiasco pour moi, parce qu'une lettre d'Apollonie l'atteste que ce n'est pas un fiasco au sens fiasco. Il n'y a pas eu de défaillance. Ça, c'est Baudelaire. Il y a un fiasco entre guillemets, sans défaillance, encore le paradoxe baudelairien. Et donc, ça m'a passionné de parler de Baudelaire, d'entrer dans son personnage, dans ces quelques heures-là. Il y a quelques heures, en fin de compte, où ils sont ensemble. Le rendez-vous charnel, le livre, c'est quelques heures.
Avec quelques documents, c'est-à-dire vous avez bien sûr travaillé, oui. Céline Lebel, hein, donc vous êtes documenté.
Beaucoup.
Mais alors, qu'est-ce qui appartient à la fiction dans votre livre Baudelaire et Apollonie?
Alors, je le dis à la fin, donc dans les notes, c'est l'histoire d'amour est vraie, le rendez-vous est vrai, mais des lettres l'attestent. Je suis partie du courrier, d'ailleurs, de ces lettres-là entre les deux, pour imaginer, parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé. On sait que ça a eu lieu, on connaît les lettres, mais on ne sait pas ce qui s'est passé. Donc j'ai imaginé cet instant, à partir des personnages que je connais, c'est-à-dire Baudelaire, Apollonie Sabatier, et à partir de là, c'est une fiction. Mais tout l'environnement, tout le contexte est lui très documenté. J'ai fait très attention à tout, même aux mots. Je n'ai pas employé de mots qu'on n'employait pas au 19e. J'ai regardé les vêtements, les parfums, les étoffes, les endroits où ils vont, comment ils s'habillent, enfin... Tout était vraiment précis, la politique du moment, en fait, tout le contexte est là et tous les noms cités dans le roman ont existé.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Avec votre regard d'aujourd'hui, avec les mots de 2019, avec votre sensibilité, Céline Debel, comment présenter Apollonie? Diriez-vous que c'est une féministe, par exemple?
Peut-être pas, ce mot-là. Je vois pas pour elle ce mot-là. Je parlerai plutôt de femme libre, mais au sens noble, pas libertine, hein, libre au sens latin, libère. Libre, aimant passionnément les arts, étant très à l'écoute de la littérature, des gens d'esprit, aimant beaucoup l'esprit, je la définirais comme une inspiratrice d'abord, une muse, quelqu'un de remarquable, surtout à son époque. Parce que tenir un salon littéraire, quand on vient d'un milieu modeste comme elle, qu'on est autodidacte, elle est née sa mère était lingère et elle est née d'un adultère préfectoral, elle a été reconnue par un grognard, enfin c'est une histoire, sa vie à elle c'est déjà un roman à elle seule, et donc c'est ça, je dirais, une femme libre, inspiratrice, une muse libre, voilà, on va dire.
Que j'aime voir, chère indolente, de ton corps si beau, comme une étoffe vacillante miroiter la peau. Sur ta chevelure profonde, aux âcres parfums, mer odorante et vagabonde, aux flots bleus et bruns, comme un navire qui s'éveille au vent du matin. Mon âme rêveuse appareille pour un ciel lointain.
Tes yeux où rien ne se révèle, de doux ni d'amer, sont de bijoux froids où se mêle l'or avec le fer. À te voir marcher en cadence, belle d'abandon, on dirait un serpent qui danse au bout d'un bâton. Sous le fardeau de ta paresse, ta tête d'enfant se balance avec la mollesse d'un jeune éléphant. Et ton corps se penche et s'allonge comme un fin vaisseau qui roule bord sur bord et plonge ses vergues dans l'eau. Comme un flot grossi par la fonte des glaciers grondants, quand l'eau de ta bouche remonte au bord de tes dents, je crois boire un vin de bohème amer et vainqueur, un ciel liquide qui parsème d'étoiles mon cœur.
Les mots de Baudelaire, la voix et la musique de Serge Gainsbourg. Céline Debel, là, il parle pas de, d'Apollonie, hein. Non, dans ce poème, d'une autre courtisane, Jeanne Duval.
Jeanne Duval qui était sa compagne pendant toute une vie, jusqu'à presque la fin. Il l'a connue très très jeune. Et effectivement, dans le livre, j'en parle. Jeanne Duval revient régulièrement parce que Apollonie espérait détrôner Jeanne Duval et prendre sa place. Elle était vraiment prête à vivre avec Baudelaire. Et c'est bon, je ne te raconte pas la fin, mais on la devine. Mais donc, voilà.
Vous avez passé combien de temps avec Baudelaire et Apollonie, Céline Debel?
2 ans et demi, et c'était très agréable comme compagnie. J'ai passé de bons moments avec eux, oui, parce que j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup cherché, j'ai beaucoup regardé tout ce qu'ils aimaient, les peintures, où ils allaient, quel théâtre, quelle pièce, qu'est-ce qu'ils faisaient, qu'est-ce qu'ils...
Mais en sortant des mondanités du Paris du 19e siècle, vous avez pu mesurer aussi l'évolution de la place des femmes dans cette société.
Ouais. C'est-à-dire qu'Apollonie sera aujourd'hui quelqu'un qui pourrait avoir un salon. Il n'y en a plus, malheureusement. Mais s'il y avait un salon littéraire, elle pourrait être présidente et vivre comme elle vivait à l'époque. On ne dirait pas qu'elle a un amant qui l'entretient. On dirait soit elle est mariée, soit elle a un compagnon. Et puis elle écrirait, elle peindrait, parce qu'elle a peint aussi. Elle a exposé, elle aussi, des petites aquarelles, des miniatures. Elle se débrouillait parce qu'à un moment, elle a eu un revers d'argent. Son amant qui l'a supporté financièrement l'a quitté et elle s'est retrouvée sans argent. Elle n'a pas voulu la dette. Elle n'a pas voulu du tout l'argent qu'il lui proposait par mois. Et elle a dit non, je me débrouille. Et là, elle était obligée de vendre ses meubles, de ses peintures, de faire elle-même de la peinture. Elle n'a jamais été intéressée par l'argent. Donc, je ne vois pas pourquoi on l'appelle courtisane, qui, par définition, une courtisane est quand même intéressée par l'argent. Elle, jamais, quand elle avait 16 ans, il y avait un comte qui était fou amoureux d'elle quand elle était à l'opéra, et elle préférait un ténor qui n'avait pas d'argent, qui n'avait pas le sou, mais elle était amoureuse de ce ténor. Et le comte, non, il s'est rien passé avec ce comte-là. Donc, l'argent ne l'a jamais intéressée. Ce qui l'intéressait, c'est l'esprit, c'était la gaieté. Elle aimait beaucoup tous ces gens, parce que, en fin de compte, à part Baudelaire, qui était un peu sinistre dans son coin, parce que c'est le personnage et qui disait pas grand chose, mais tous les autres, Théophile Gautier, par exemple, ou Flaubert, c'était des joyeux lurons. Ils venaient à ces soirées le dimanche pour se détendre de leur travail, parce qu'ils travaillaient tous évidemment beaucoup, et pour rigoler, s'amuser. On dînait, on parlait de politique, on parlait de littérature, on parlait de peinture, bien sûr, puis après on allait au salon, et puis on faisait des jeux, on faisait des charades, on écrivait sur un album Amicorum où on mettait des petits dessins, où on mettait des poésie un petit peu légère. Enfin, on rigolait. C'était des soirées de détente pour eux, les repas chez Madame Sabatier, chez la présidente, le dimanche soir. C'était se détendre. Ernest Feydeau venait, Messonnier aussi un peintre. Enfin, il y avait beaucoup de monde.
Qui sont les Apollonie Sabatier d'aujourd'hui, d'après vous, Céline Debelle?
C'est très difficile dans la mesure où il n'y a pas de salon littéraire. Après, on aurait pu dire la comtesse de Noailles, mais c'était pas aujourd'hui. Anna de Noailles pourrait lui ressembler différemment parce que, bien sûr, c'est pas le même personnage. Mais aujourd'hui, dans la mesure, les structures sont pas les mêmes. La société n'est pas la même. Donc, on peut pas retrouver vraiment une femme qui reçoit chez elle une fois par semaine tout ce qui compte de littérature et de peinture à Paris, par exemple, de ce monde-là. Je ne vois pas, non. Je crois qu'elle a pas de...
Alors, vous dites courtisane, non, mais muse, oui, pour Apollonie.
Oui. Tout à fait, muse de Baudelaire d'abord. 10 poèmes dans les Fleurs du Mal, c'est pas rien, dont des magnifiques poèmes. À celle qui est trop gaie, bien sûr, le premier poème qu'il lui a envoyé, Réversibilité, l'aube spirituelle, confession, le flambeau vivant, que diras-tu ce soir, hymne tout entière, harmonie du soir, la fameux poème Harmonie du soir, inspiré par Apollonie, le flacon, magnifique poème aussi. Donc sans Apollonie, on n'aurait sans doute pas eu ces poèmes-là, ces 10 poèmes-là. Et elle a inspiré aussi, bien sûr, Clessinger, qui est le sculpteur Auguste Clessinger. Elle a inspiré d'autres poètes, je vous l'ai dit, comme Gautier ou Calonne. Et elle a inspiré, en fait, tous ceux qui venaient là étaient sous le charme et étaient inspirés, d'une manière ou d'une autre, par cette femme.
Baudelaire et Apollonie, c'est édité chez Arléa, ce premier roman qui mêle la fiction et votre documentation, et des faits réels. Hein.
Exactement.
Parce que vous êtes journaliste, ce n'est pas rien de rappeler Céline Debelle. Bonjour Oriane Joncourt du magazine Transluge.
Bonjour.
Alors, on était dans un salon du 19e, oui, à Paris, avec, ouais, Apollonie et Baudelaire. Qu'est-ce que cela vous a inspiré?
Mais je trouvais ça merveilleux de vous écouter, et je trouve ça très bien, en effet, de rendre un peu grâce et hommage à ces femmes du 19e qui ont été, certes, immortalisées par la Dame aux Camélias, par Nana, mais vous l'avez dit, souvent, on dit que ce sont des femmes qui, en effet, avaient besoin d'argent et qui se vendaient, mais cette statue entre la muse, la créatrice,
l'inspiratrice
qui en effet interdisait toute ingénuité, puisque dans le 19e siècle les femmes n'avaient pas d'autre choix que de se vendre parfois au plus offrant. Eh bien, je trouve ça intéressant aujourd'hui de rendre à ces femmes un peu leur stature et le rôle qu'elles ont joué. Et je vois que ça se fait de plus en plus, par exemple au théâtre, mais beaucoup on a mis en scène récemment une très belle Dame aux Camélias, bon, avec un tragique que n'avait pas la vie de Sabatier, mais je trouvais ça assez passionnant de rendre à ces femmes une stature aujourd'hui.
Et qu'est-ce qui se passe dans la France du 21e siècle, Oriane Joncourt, vous qui êtes la rédactrice en chef des pages littéraires de ce magazine consacré à la culture?
Eh bien, écoutez, la culture, justement, elle est en titre de notre magazine, puisque nous avons titré « La culture sauvera l'Europe », comme beaucoup de gens en ce mois de mai, nous avons beaucoup pensé à l'Europe, et évidemment jusqu'à maintenant.
Mais dites-moi, le titre de votre magazine Transfuge, il met un point d'interrogation, il est dans la
On est dans l'affirmation, parce qu'on est dans
vous êtes bien optimiste.
Voilà, absolument, et d'ailleurs on réfléchit beaucoup à cette phrase qui est une forme de volontarisme, d'incantation, chacun il ira ce qu'il veut, mais en tout cas c'est quelque chose dont sont persuadés les gens qu'on a interrogé pour ce vaste dossier consacré à la culture européenne contemporaine, semaine, puisque on fait un grand entretien avec Laurent Godet. Laurent Godet, bon, écrivain, il a eu le Goncourt, vous le savez, poète, dramaturge, et puis qu'il a sort un texte qui s'appelle Banquet d'Europe, qui va ensuite donner une pièce au Festival d'Avignon, pièce très attendue, mise en scène par Roland Osay. Mais donc là, le texte Banquet d'Europe, c'est une relecture poétique, lyrique, de ces deux derniers siècles européens. Donc en vérité, il part à peu près de l'industrialisation, du colonialisme, pour remonter jusqu'à aujourd'hui, et porter l'histoire de l'Europe avec vraiment un sens de l'épique, en disant ça suffit maintenant, puisqu'on voit bien que la première critique de l'Union européenne est celle d'être une sorte de ventre mou, un régime institutionnel, sans enthousiasme, sans poésie, sans ferveur révolutionnaire. C'est quand même ça la première critique qu'on fait à l'Union européenne. Eh bien lui, il dit non. Il dit l'Union européenne, la fondation de l'Union européenne a été, au cours de ces deux derniers siècles, une des plus belles aventures humaines. Parce que où trouvez-vous sinon 27 pays qui choisissent de s'unir et de vivre ensemble et d'instaurer un régime de paix et de démocratie. Alors bien sûr, il ne nie pas et au contraire, il met l'accent sur les crimes coloniaux, sur les crimes de la Seconde Guerre mondiale, sur les méandres du capitalisme libéral, sur la crise de 29, il raconte tout ça. Mais il raconte ça comme un grand poème épique, et je trouve ça absolument passionnant. Alors, dans les autres domaines, puisque nous avons donc quatre domaines à Transfuge, eh bien, en théâtre, il y a ce fantastique festival qui est Chantier d'Europe, qui a lieu au Théâtre de la Ville, et qui invite des compagnies de toute l'Europe, des compagnies méconnues, grecques, italiennes, espagnoles, pour justement présenter leur spectacle, et chacun à leur façon nous disent quelque chose sur ce qu'est la culture européenne aujourd'hui. C'est par exemple, il y a un très beau spectacle argentin et espagnol, puisque c'est donc européen, qui nous raconte les préoccupations écologiques de l'Espagne, de la jeunesse espagnole aujourd'hui. Et puis enfin, nous faisons une série de portraits de jeunes artistes européens, ceux qui sont présentés à la Fondation Cartier, aussi sur la jeunesse européenne. Et donc nous avons des Russes, des Français. Il y a par exemple Myriam Haddad,
française. Ah, donc l'Europe au sens large, hein, avec la Russie incluse.
Oui, alors bah oui, ça c'est la grande question. Oui, je crois qu'ils ont fait l'Europe géographique. Ça c'est la Fondation Cartier. L'Europe géographique, et donc il y a un Russe, mais il y a Myriam Haddad, qui est une femme absolument passionnante, qui a fait, vous l'avez peut-être vu, l'affiche du Festival d'Avignon, qui est une peintre, qui revient des couleurs extrêmement vives, et qui a un univers très onirique, avec des crocodiles, et qui est une Française d'origine syrienne. Et ça c'est très frappant, dans cette jeunesse européenne, cette culture européenne qu'on met en avant, c'est à quel point cette culture européenne est finalement une culture mondiale, puisque chaque artiste porte en lui, porte à travers son histoire, l'histoire du monde, qu'elle soit syrienne, africaine, maghrébine ou autre.
Merci beaucoup.
Je vous en prie,
ça donne envie de lire ce numéro de Transfuge. Merci Auriane Jeancourt et merci Céline Debelle d'être passée. Céline Debelle, auteure de Baudelaire et Apollonie, le rendez-vous charnel chez Arléa. Vous pouvez désormais réécouter cette émission en passant par franceculture.fr. On se retrouve demain. Bonne matinée sur France Culture.
Vous êtes sur France Culture, dans un instant les informations de 6h30, à suivre le journal des idées par Jacques Munier et les enjeux internationaux par Xavier Martinet.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Matinale spéciale élection, ce lundi sur France Culture.
Retrouvez-nous dès 7h dans les matins pour analyser avec des journalistes européens, notamment italiens, autrichiens, polonais et allemands, les résultats des élections européennes.
Les matins de France Culture, ce lundi dès 7h et sur franceculture.fr.
Bon, ça va, t'as que 42 points à rattraper, rien d'insurmontable. Hein. T'as 8,8 de moyenne. T'as eu 5 en anglais, 4 en philo.
4 en philo.
France Culture passe le bac, Adèle Van Rett.
Le bac approche et l'épreuve de philosophie vous terrifie. Que vous soyez élève ou parent, nous sommes là pour vous. Et on vous propose cette semaine la correction de 3 sujets de disserte susceptibles de tomber le jour du bac. L'identité, le travail, la liberté. Écoutez 3 profs de philo décortiquer pour vous ces notions et soyez fin prêt le jour J. Des émissions à podcaster à volonté.
Passons le bac avec les chemins de la philosophie, de lundi à mercredi à 10h et sur franceculture.fr.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Si les partis pro-européens sont parvenus à contenir la poussée des eurosceptiques en Europe, l'extrême droite arrive tout de même en tête en France. Les détails dans un instant. Ce scrutin européen marqué par une forte participation et par la progression des Verts en France et en Allemagne notamment, nous irons à Berlin. Nous ferons aussi le point sur la composition du futur Parlement européen, un hémicycle plus morcelé que jamais, vous le comprendrez dans ce journal. Et puis reportage à Rio de Janeiro au Brésil où les habitants protestent contre la violence policière. Les victimes sont de plus en plus nombreuses cette année. Le Rassemblement national confirme donc son enracinement en France avec près de 24% des voix remportées hier aux élections européennes. La majorité République en marche et Modem est à 2 points derrière. Bonjour Stéphane Robert.
Bonjour.
Chef du service politique de France Culture, vous décortiquez pour nous ces résultats. Résultats qui reproduisent à peu près le duel de la présidentielle de 2017.
C'est effectivement un duel, un match entre la République en marche et le Rassemblement national, entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, auquel on a assisté hier soir, comme lors de la présidentielle en 2017. C'est d'ailleurs ce qui explique en partie la forte participation à plus de 50%. Mais cette fois, ce duel a été remporté par Marine Le Pen et par sa formation, le Rassemblement National, qui fait figure, comme il y a 5 ans, de premier parti de France. Emmanuel Macron, évidemment, se déclare déçu, c'est lui qui avait voulu ce duel et il l'a perdu. Mais il faut quand même relativiser ce mauvais résultat pour le pouvoir en place. Il y a seulement à peine 2 points d'écart, un peu près de 24% pour le Rassemblement National, 22,3% pour La République En Marche. Si l'on considère que le scrutin européen est traditionnellement un vote sanction pour le pouvoir en place, on peut voir là qu'Emmanuel Macron sauve les meubles et qu'il fait plus que résister à la dynamique du Rassemblement National. L'autre grand vainqueur de ce scrutin, ce sont les écologistes. La liste portée par Yannick Jadot fait beaucoup plus que ce que lui prédisaient les enquêtes d'opinion, pratiquement 13%, le vote en faveur des Verts s'inscrit, vous le disiez, dans une progression globale du vote en faveur des écologistes au niveau de toute l'Europe. Enfin, les grands perdants de ce scrutin sont d'abord les Républicains avec 8,5%, la droite ressort complètement laminée, la gauche n'est pas en meilleur état, la France insoumise 6,3%, résultat catastrophique également, Mélenchon se retrouve au même niveau que le PS et Place Publique et ne peut plus revendiquer le titre de premier parti de gauche. Le PS, lui, avec ce score de 6,3%, sauve les meubles, mais reste sur un résultat historiquement faible.
Voilà donc pour les résultats. Merci beaucoup Stéphane Robert. Quels enseignements maintenant en tirer? Question posée hier soir à Yves Bardon de l'Institut de sondage Ipsos Soprasteria. Il était l'invité, Stéphane, de France Culture hier pour la soirée spéciale et il analysait le duopole persistant en France depuis la présidentielle.
Chacun est positionné sur des thématiques totalement inverses. L'électeur Rassemblement National, il est préoccupé par l'immigration dans des proportions énormes. 70% des électeurs Rassemblement National mettent l'immigration comme un sujet numéro 1. Ensuite, c'est le pouvoir d'achat et après, c'est le terrorisme. À l'opposé, on a des gens qui sont soucieux du rôle et de la place de la France en Europe et dans le monde, qui sont sensibilisés aux problématiques d'environnement et pour lesquels le pouvoir d'achat ne vient qu'en troisième position.
Ce sont ceux-là qui votent La République En Marche ?
Ils sont les plus nombreux à voter La République En Marche et on voit bien que ce sont des catégories presque culturelles complètement différentes et entre lesquelles créer des passerelles va être très compliqué. Et le troisième sujet qui est nouveau, qui a énormément progressé en peu de temps, c'est l'environnement et la prise de conscience d'un certain nombre de sujets liés au réchauffement climatique. Et ça, c'est franchement nouveau et ça n'a pas de coloration politique claire. Et ce sera peut-être la surprise des prochaines élections et on verra ce qui va arriver aux Verts.
Les Verts, justement, qui font une poussée importante au Parlement européen, troisième force politique, avec a priori 69 sièges sur 751, soit 1 sur 10. C'est en Allemagne que leur victoire est la plus grande. Les écologistes sont arrivés deuxième, derrière les conservateurs d'Angela Merkel et devant les sociaux-démocrates. Les conservateurs et les sociaux-démocrates, deux partis traditionnels qui perdent à eux deux près de 19 points en Allemagne. Quand les Verts enregistrent un record avec 20,7% des voix, donc 21 sièges. Notre correspondant Ludovic Piétenu était à leur côté hier soir dans la capitale allemande.
Une soirée électorale en plein air pour les Verts allemands. Ils célèbrent leur score sous les arbres au cœur de Berlin. Il y a là beaucoup de jeunes à l'image de leur électorat. 36% de ceux qui ont voté pour la première fois ont choisi les Verts. 33% des 18-29 ans. Le parti sort aussi en tête chez les 30-44 ans. L'explication est simple pour la tête de liste Sven Giegold.
Il y a eu pendant la campagne un intérêt énorme dans les écoles. C'est le résultat du grand mouvement international pour le climat et aussi le mouvement pour les libertés à l'espace de l'Internet. Et les Verts en Allemagne ont soutenu ces revendications et c'est pourquoi ils ont voté pour nous.
Les Verts sont en tête dans plusieurs grandes villes, à Berlin, Munich, Francfort et Hambourg. Ils s'installent comme la deuxième force politique du pays, derrière les conservateurs, dont fait partie Joachim Bitterlich, ancien conseiller d'Helmut Kohl. C'est juste en face, depuis son balcon, qu'il observe la fête électorale des Verts.
Ils n'ont pas cherché de bagarre, ni des guerres idéologiques, ni quoi que ce soit. En allemand, on dit « eine Wohlfühlpartei », un parti dans lequel on se sent bien. Et pour les jeunes qui veulent leur bien-être, ça correspond exactement à l'horizon d'attente de cette jeunesse. Je dois faire vraiment le compliment aux Verts allemands. Bien joué.
Les Verts, déjà bien ancrés dans la vie politique allemande, ne sont plus très loin de devenir un parti de masse, un Volkspartei, comme on dit en Allemagne, un parti populaire, à force de tailler les croupières aux sociaux-démocrates comme aux conservateurs.
C'était un reportage de Ludovic Piétenu à Berlin pour France Culture. Faisons maintenant un point sur le Parlement européen à venir, où, comme en Allemagne finalement, les deux grands partis sont en perte de vitesse. La droite et la gauche qui régnaient sur le Parlement de Strasbourg ne disposeront plus de la majorité comme ils l'ont toujours eu. Face à la montée des Verts, face à la poussée des libéraux centristes et à celle des eurosceptiques, en Italie et au Royaume-Uni notamment. Un point chiffré ce matin avec Angélique Boin.
Le PPE, qui réunit les partis de droite classique, est en tête, suivi des socialistes européens, mais ces familles politiques perdent chacune une quarantaine de sièges et à elles deux, elles ne détiennent plus la majorité au Parlement. Pari tenu pour les centristes et les libéraux qui vont s'allier, ils deviennent la troisième force politique. Avec un peu plus d'une centaine de sièges, ils devraient pouvoir jouer le rôle pivot auquel ils aspirent, mais il faudra compter avec le nouveau poids des Verts européens, au moins 70 élus, une vingtaine de plus qu'en 2014. C'est une très forte progression. Les trois groupes nationalistes et eurosceptiques ne siégeront pas ensemble, les jeux d'alliance ne font que commencer, mais les deux groupes les plus à droite affichent des scores en nette hausse, celui dans lequel siègent la Ligue italienne et le Rassemblement national gagnent une vingtaine de sièges. Les chefs des groupes politiques pro-européens entameront dès aujourd'hui des discussions autour d'un projet de coalition. Ils veulent aussi imposer l'un des leurs à la tête de la future commission et présenter sur le sujet un front commun avant le Conseil des chefs d'État et de gouvernement de mardi soir.
Les tractations débutent donc et les candidats à la présidence de la Commission européenne s'activent. Hier, la Danoise Margrethe Vestager a annoncé sa candidature après l'arrivée en troisième position des libéraux, sa famille politique, au scrutin européen. Et lors de ces élections, plusieurs autres scrutins avaient lieu dans différents pays, élections régionales et municipales en Espagne, par exemple, où l'on peut souligner le pari perdu de Manuel Valls. L'ancien Premier ministre français arrive quatrième à Barcelone avec 13% des voix. C'est le candidat indépendant. Indépendantiste catalan qui semble le mieux placé pour être élu maire de Barcelone. Partons maintenant à Rio de Janeiro au Brésil où la police tue de plus en plus. 5 personnes en moyenne par jour lors du premier trimestre cette année. C'est un record, triste record depuis 1998. Cette violence est encouragée par le nouveau gouverneur de Rio qui défend l'usage des snipers pour abattre les délinquants. Ce gouverneur dirige même personnellement certaines opérations policières. Hier donc, les habitants des favelas à Rio ont manifesté contre lui et contre la police, Anne Vigna.
Une manifestation convoquée par les représentants de 60 favelas et les principales organisations sociales est particulièrement rare à Rio. Mais la violence a beaucoup empiré pour les habitants de ce quartier. 435 morts par la police depuis janvier et des affrontements quotidiens, nous explique Ramildo. Il est président de l'association des habitants du complexe de favela da Peña.
Cela fait 58 ans que je vis dans une favela. Je n'ai jamais vu la favela comme ça. On ne peut pas laisser les enfants jouer dans les rues. D'un moment à l'autre, il peut y avoir une fusillade. Les snipers agissent déjà au sein des favelas. Ils tirent depuis les hélicoptères et le sol est plein de trous. Une politique comme ça, de confrontation, n'a jamais marché nulle part au monde.
À l'origine de cette augmentation des morts par la police, la politique du nouveau gouverneur de Rio, élu grâce à l'appui de la famille Bolsonaro. Le gouverneur considère qu'il faut abattre tout délinquant. Une politique totalement illégale, souligne la députée fédérale Jandira Fegali.
C'est un gouverneur qui fait une politique de la haine, de l'intolérance et donne l'autorisation pour tuer. Il autorise qu'on abatte les gens, il participe à des opérations policières qui assassinent sans aucune légalité. Nous sommes en train de le dénoncer à l'international pour qu'il soit puni, parce qu'il monte dans des hélicoptères avec des policiers qui tirent pour tuer et tuent effectivement.
Dans le gouverneur Wilson Witzel que le président Jair Bolsonaro défend de l'action de la police. Et ils n'ont pas un mot pour les innocents tombés, les balles perdues et meurtrières et les 20% de la population de Rio traumatisée par cette violence quotidienne.
Anne Vigna au Brésil pour France Culture. La météo à présent sur l'Hexagone et des averses vont traverser le pays ce lundi du nord au sud en diagonale. Il pleuvra ce matin du Grand Est jusqu'à l'Occitanie, puis en PACA cet après-midi. Seul le nord-ouest et l'extrême sud seront au sec. Comptez ce matin 15 degrés à Nantes et Bayonne, 17 à Paris et Lille, 18 degrés à Besançon et Lyon, 23 à Marseille. Vous écoutez France Culture, il est 6h40. Bonjour Jacques Meunier.
Bonjour Clara Le Coq-Réal.
C'est l'heure de votre journal des idées. Et vous revenez, Jacques, ce matin sur une grève des urgences qui s'étend. Les personnels soignants se sont d'ailleurs réunis samedi à Paris pour faire le point sur leur mouvement.
Oui, c'est une grève qui s'étend à bas bruit dans l'indifférence du gouvernement, note Caroline Coq-Chodors dans Mediapart. Alors qu'elle dure depuis plus de 2 mois, les médecins appellent à leur tour à un débrayage. À la Bourse du Travail, l'Assemblée Générale a débuté par les témoignages des différents services. Ils se ressemblent, apportant tous le même écho d'un système de santé au bord de la rupture. Isolé, peu relayé dans les médias, peu visible, car la plupart des grévistes sont réquisitionnés pour assurer la continuité des soins, le mouvement fait l'épreuve de ses limites, conduisant au mieux à quelques renforts d'effectifs, toujours pris sur les autres services de l'hôpital. Le collectif de paramédicaux appelle à une manifestation nationale mercredi 6 juin et il a adopté une motion qui reprend leurs revendications, notamment la réouverture des lits d'hospitalisation, car l'engorgement des urgences provient souvent du manque de places en aval dans les services. Tous les hôpitaux sont engagés dans un mouvement sans précédent de fermeture de lits dans le but d'atteindre un taux d'occupation optimal et absurde car incompatible avec une activité aussi aléatoire. Le mouvement est en train de s'élargir aux médecins comme à Saint-Nazaire. Certaines soirées, on a 140 patients aux urgences pour 4 médecins. Cela me donne le vertige, témoigne Florian Vivrel, médecin qui partage son activité entre les urgences de Nantes et de Saint-Nazaire. La dernière livraison de la revue Pratique, les cahiers de la médecine utopique, publie un dossier intitulé « Réhumaniser le soin en psychiatrie et ailleurs ». Question cruciale, à l'heure où la loi santé est discutée au Parlement, partant du constat d'un système de santé en crise du fait du vieillissement de la population et de l'explosion des pathologies chroniques, le projet présenté par l'exécutif a trouvé la solution pour faire des économies, amplifier le virage ambulatoire, aller-retour, hôpital dans la journée. L'édito dénonce la destruction de pans entiers de la psychiatrie, mais aussi la transformation des lieux de soins en système de réparation organique ambulatoire, sans accompagnement ni suivi sérieux, provoquant la démobilisation, voire la démission des professionnels les plus engagés. Toutes les contributions de psychiatres, médecins généralistes, aides-soignants témoignent dans ce dossier de la disqualification du temps consacré à l'écoute et de la volonté de cantonner les soignants à des actes techniques tendant à les déposséder de leur capacité à inventer face aux situations du quotidien. Ils en appellent à la nécessité de retrouver l'essence même du soin dans ce lieu de repli ultime qu'est l'hôpital. Retrouver l'essence même du soin, c'est à cela que s'emploie Cynthia Fleury dans un opuscule de la collection Tract chez Gallimard. Le soin est un humanisme. Elle y évoque aussi cette vision capacitaire et imaginative du soin liée à une approche du malade comme sujet. La philosophe et psychanalyste qui a créé une chaire de philosophie à l'hôpital estime que les facultés de médecine et la formation continue des professionnels donnent encore trop peu de place à l'enseignement des humanités et que la sollicitude, la prudence, la réflexion éthique ne sont pas des suppléments d'âme, mais des facultés humaines, comportementales, psychiques et psychosociales à développer chez les soignants pour leur permettre d'être plus efficaces dans le soin des patients. Soulignant que la vulnérabilité est liée à l'autonomie, qu'il convient de travailler à la rendre la moins irréversible possible, elle cite « L'existentialisme est un humanisme » de Sartre. Quand nous disons que l'homme est responsable de lui-même, nous ne voulons pas dire que l'homme est responsable de sa stricte individualité, mais qu'il est responsable de tous les hommes. Morts ou vifs, ajoute la revue L'Autre, revue de la clinique transculturelle, dans un dossier sur le soin apporté aux défunts par les vivants, du génocide cambodgien aux leçons de la préhistoire en passant par les gitans d'Andalousie, il explore les relations imaginaires et rituelles qui les relient dans le deuil. Anna Cognier évoque un cas douloureusement actuel, quelle funéraille pour les migrants morts en mer, comme une belle illustration de la responsabilité des humains envers tous leurs autres semblables. Les initiatives se multiplient, comme dans le village italien de Tarsia pour créer un cimetière international pour les migrants, de manière, ainsi que l'a déclaré son maire Roberto Ameruza, à leur donner de la dignité au moins dans la mort. En guise de signal adressé par les défunts, le maire souligne cet atout symbolique. Le cimetière sera situé à proximité du camp d'internement de Ferramonti où Mussolini avait interné plus de 3000 personnes en majorité juive, d'abord secourus par un navire de la marine italienne après leur chavirage en mer Égée au terme de leur fuite de Bratislava par le Danube. Vous écoutez France Culture, il est 6h45. Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Meunier, bonjour à tous.
Au sommaire des enjeux internationaux aujourd'hui, cette question, quelle politique étrangère pour l'Europe ?
Oui, c'est ça, pour le scrutin, vous le savez, c'est une participation en hausse, une affirmation des nationalistes moins forte que prévu. Voici les grandes tendances du scrutin, mais c'est aussi la première phase du renouvellement institutionnel européen avant le choix des principaux postes de direction, parmi lesquels celui de haut représentant pour la politique étrangère de l'Union européenne. On voit ça avec vous, Christian Lequen. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être au téléphone ce matin depuis Prague. Vous êtes professeur à Sciences Po, spécialiste de la politique étrangère et européenne de l'Union européenne. Alors la deuxième phase, on peut dire, elle commencera demain, ces nominations avec un sommet des chefs d'État. Juste qu'on dise un mot simplement des grandes tendances du scrutin, poussée verte inattendue, poussée des nationalistes contenus, effondrement des droites et des gauches relatifs. En fait, qui est-ce qui peut revendiquer la victoire aujourd'hui ? Personne ?
Bon, je pense que les Verts peuvent être heureux de manière générale du score qu'ils ont fait dans plusieurs pays européens. Pour le reste, vous avez raison d'insister sur le fait qu'il n'y a pas la poussée populiste extraordinaire que l'on aurait pu penser. Alors là, la France et l'Italie, et également la Grande-Bretagne, qui sont des grands pays, sont quand même des exceptions par rapport aux autres États de l'Union européenne. Et surtout, on n'aura plus cette grande alliance avec une majorité absolue entre les sociaux-démocrates et le centre-droit que l'on appelle le Parti populaire européen. Et ça va changer la donne au sein du Parlement européen, car il faudra avoir recours bien davantage aux coalitions. Mmh. Toute la question sera de savoir, très important, si les Verts acceptent de participer à cette coalition qu'on pourrait appeler des pro-européens contre les populistes.
Et finalement, quelle que soit, disons, la couleur de ce Parlement, sans une majorité extrêmement marquée, est-ce que ça, disons que ce changement influera vraiment sur les nominations président de la Commission et haut représentant pour la politique étrangère ?
à président de la Commission, ça j'en suis certain, bien que le Parti populaire européen arrive en tête, son candidat désigné, Monsieur Manfred Weber, à mon avis, est loin d'être élu automatiquement président de la Commission. Il va y avoir énormément de tractations, et moi, mon intuition d'ailleurs, c'est que Weber a peu de chances d'être président de la Commission. Mais comme vous le dites, il n'y a pas simplement ce poste, il y a aussi celui de président de la Banque Centrale Européenne, il y a celui de haut représentant pour la politique étrangère et la sécurité, il y a également un nouveau poste qui est le nouveau chef du parquet européen, nouvellement créé, et tout ça donnera naissance à un compromis global où il faudra équilibrer beaucoup de choses, il faudra équilibrer les tendances politiques, les nationalités et également la question du genre, l'équilibre homme-femme.
Et à ce titre, vous parlez du genre des nationalités, donc Federica Mogherini, la haute représentante pour la politique étrangère et de défense de l'Union européenne, quittera son poste en novembre, excusez-moi. Et de ce point de vue-là, c'est un peu l'Italie qui est en position, on pourrait dire, de force exceptionnelle au sein des institutions pour peser là-dessus. Pour l'instant, Antonio Tajani, président du Parlement, Mario Draghi, président de la BCE, et Giuseppe Conte l'a dit, hein, il a revendiqué ce rôle à l'avenir.
Oui, alors il est vraisemblable que Monsieur Salvini, fort aussi du résultat qu'il a fait hier, pousse pour qu'il y ait des candidats de la Lega, mais ça, je ne suis pas sûr que ça marche. Prenez le poste de haut représentant, les mécanismes institutionnels disent que ce haut représentant n'est pas élu avec la règle de l'unanimité, mais la majorité qualifiée. Et très franchement, je ne crois pas que l'on mette à un poste comme celui-ci un Italien provenant d'un parti d'extrême droite. Non, franchement, oui. Ça, je l'exclus même.
Donc l'Italie ne pourrait pas emmener un groupe autour d'elle pour cette nomination. Qui alors pour remplacer Federica Mogherini? Ce sera la troisième représentante de l'UE depuis la mise en place de la fonction. Je crois avoir lu entre 10 et 11 noms différents, dont Frans Timmermans, qui est quand même le premier vice-président de la Commission.
Oui, et en même temps, quand on regarde un peu le débat autour de ces nominations, les rumeurs, on se rend compte que c'est vraisemblablement pour ce poste les candidats sont, j'allais dire, les moins déclarés. Quand vous prenez la Banque Centrale Européenne, alors c'est peut-être lié à l'activité très technique où il faut quelqu'un qui soit vraiment un banquier central. Bon, ben on voit bien les noms qui se profilent, M. Liikanen, le Finlandais, M. Curé ou Monsieur, bien sûr, l'Allemand actuellement président de la Banque Centrale Allemande. Là, c'est plus, on a l'impression que c'est un peu le poste qui reviendrait à celui qui n'a pas eu autre chose éventuellement, ce qui veut peut-être dire quelque chose d'ailleurs sur la considération que l'on attache à ce poste par rapport à d'autres.
Et quand bien même, quel que soit, disons, le président, enfin ce haut représentant à la fin de l'année, il y aura un premier grand défi à relever. Autant Thomas Gomard de l'IFRI disait de Federica Mogherini qu'elle avait réussi à ce que l'Union européenne ne parle que d'une seule voix. C'est elle qui avait mis en place une stratégie plutôt volontariste, hein, de politique de défense, vision partagée, action commune. Vous diriez, un, qu'elle a réussi de ce point de vue-là, et deux, que ça va être un des principaux enjeux des 6 prochains mois?
Oui, je trouve qu'effectivement son bilan est honorable. Comme elle l'a dit elle-même, et je crois que c'est assez juste, elle laisse la maison en ordre. Ce qu'elle a réussi à faire par rapport à son prédécesseur ou à sa prédécesseur, Madame Ashton, c'est qu'elle a réussi effectivement à faire parler sur les questions de politique étrangère pour la coordination les institutions européennes avec les États membres. Madame Ashton se concentrait essentiellement sur les États membres. C'était peut-être lié au fait qu'elle était britannique et qu'elle avait une vision purement intergouvernementale. Là, Madame Mogherini, elle a beaucoup plus réussi à intégrer les institutions européennes. Puis elle a eu une action quand même très positive, notamment dans un dossier récent qui est celui des sanctions à l'égard de l'Iran. Elle a très bien joué dans cette affaire.
Avec la mise en place du mécanisme spécial, avec quand même quelques faux pas ou quelques hiatus, notamment récemment en ce qui concerne le maintien, par exemple, du dispositif d'assistance et de un dispositif militaire en Méditerranée, Sophia, dans lequel c'est un choix à minima qui a été fait et Federica Mogherini s'en était plaint. Elle peut pas aller au-delà de la volonté des États tout de même, évidemment.
Bien sûr, bien sûr. Et vous savez, ça, c'est toute la difficulté de ce poste. Si vous avez quelqu'un de trop ambitieux, immédiatement, vous avez les États membres, et en particulier les grands, comme la France, la Grande-Bretagne encore, qui disent « Ouh là là, ce haut représentant, de quoi se mêle-t-il ? La politique étrangère, c'est notre affaire. » Et puis, si vous avez un profil trop bas, on dit « Oh là là, c'est quelqu'un de fallot, c'est quelqu'un qui n'a pas l'ambition. » Donc vous voyez, c'est un peu un entre-deux très très difficile. Hein. C'est pas un poste où vous créez de la légitimité très très facilement. Et c'est peut-être pour ça que les gens se battent moins que pour d'autres fonctions.
Et de ce point de vue-là, quel que soit le haut représentant, est-ce qu'une politique, disons, plus affirmée, plus volontariste, comme il est demandé, notamment, vous avez parlé de l'attitude face aux États-Unis sur le dossier iranien, ou alors face à la Chine sur la question de la conclusion d'un accord d'investissement pour 2020, est-ce que, disons, cette idée d'un front commun, il faut l'abandonner avec une règle de toute façon de l'unanimité des États pour la politique étrangère, ou est-ce que une personnalité forte serait capable de la faire appliquer, disons.
Une personnalité forte pourrait aider les États membres à se coordonner davantage, mais il ne faut jamais oublier que c'est d'abord la volonté des capitales dans ce domaine de la politique étrangère et de la défense qui est important. Et c'est là où l'enjeu post-électoral après les élections européennes est fondamental. C'est-à-dire que si les capitales comprennent qu'il faut se coordonner, à ce moment-là, on pourra faire des choses. Si elles sont divisées, notamment la France et l'Allemagne, à ce moment-là, on ne fera pas grand-chose. Mais vous avez raison d'insister sur le fait qu'il y a des grands sujets, et notamment celui de la Chine, qui est maintenant vraiment sur le plan commercial en particulier, pour deux raisons. D'abord, c'est parce que l'Europe est très ouverte aux investissements extérieurs, alors que la Chine est beaucoup plus fermée, notamment sur la question des marchés publics. Et puis, on voit bien qu'il y a une stratégie hégémonique de la Chine qui consiste à diviser les Européens. C'est le fameux dossier de la route de la soie, où certains Européens ont accepté les aides chinoises, alors que d'autres ne le veulent pas.
Et autre dernier grand dossier de Federica Mogherini, qui avait plaidé récemment pour une connectivité durable. Eh bien, écoutez, merci pour vos explications ce matin, Christian Lequen, depuis Prague. Je rappelle, professeur à Sciences Po. Merci, spécialiste politique étrangère et européenne de l'Union européenne.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Réagir, témoigner, hashtag sur France Culture. Éric Chavroux.
Hashtag, quand le témoignage prend la parole. Toutes les semaines, nous vous appelons à réagir sur les réseaux sociaux à propos d'un sujet de société. Témoigner et compléter les paroles de ceux que nous avons interviewés. Hashtag, c'est dès le lundi sur les réseaux sociaux et le vendredi à 7h24 dans les matins et sur franceculture.fr.
Attention, assez bien.
T'as eu mes messages ?
Non, j'ai eu mon bac. On va fêter ça ?
France Culture passe le bac. Emmanuel Laurentin.
Comme chaque année, la Fabrique de l'Histoire vous aide à passer le bac. 3 émissions sur 3 thèmes à partir de 3 photos décrites et analysées par des historiens et des professeurs. Les États-Unis et le monde au XXe siècle, l'Allemagne et le socialisme au XXe siècle également, et enfin la mémoire de la guerre d'Algérie, tout cela en photographie et avec des corrigés.
Révisez le bac avec la Fabrique de l'Histoire, de lundi à mercredi à 9h05 et sur franceculture.fr.
Et à 6h57 sur France Culture, c'est l'heure des matins.
Mais oui, Xavier Martinet.
Avec vous, Guillaume Herner, bonjour.
Bonjour à toutes et bonjour à tous.
Pour nous annoncer qu'il y a eu une grande défaite.
Oui,
hier.
Celle des sondeurs, car tout ne s'est pas passé comme prévu. Loin s'en faut, plusieurs surprises. Alors tout d'abord, l'excellent score des Verts, parfaitement inattendu. Ensuite, l'écart de points entre le Rassemblement National et La République En Marche, qui n'est pas celui qui était annoncé. On évoquait un Rassemblement National très haut. Et puis enfin, un score pour les Républicains très inférieur. inférieur à celui qui était annoncé. L'effet Bellamy, plusieurs fois pronostiqué, ne s'est absolument pas traduit dans les urnes. Dans une moindre mesure aussi, la France insoumise a été généralement surévaluée et le PS sous-évaluée. Alors si je dis cela, c'est pas seulement pour être méchant, hein, Xavier. C'est au contraire pour apporter ma compassion à une profession durement frappée par la décomposition politique. Alors certes, il se pourrait fort bien que la parole des sondeurs ait un effet performatif, ce qu'on a toujours reproché à cette parole d'avoir. Vous savez, c'est une critique récurrente. Les sondages ne se contenteraient pas de mesurer l'opinion, ils la fabriqueraient. Il se pourrait donc que le score élevé annoncé du Rassemblement National ait incité des électeurs à voter contre le Rassemblement National, mobilisant par exemple les électeurs de La République En Marche. En revanche, il est beaucoup plus compliqué d'attribuer à la performativité des sondages le score des Verts, des Républicains ou bien encore le score plus bas qu'annoncé de la France Insoumise. Les sondages se sont lourdement trompés, pas en gros puisqu'ils avaient tous prévu le duel Rassemblement National-La République En Marche, avec une avance donc du premier, mais dans le détail, puisque jamais les Verts n'avaient été crédités d'un tel pourcentage. Même chose pour La République En Marche, mais dans le sens de, pour les Républicains, pardon, mais dans le sens de la contre-performance. Alors, ça n'est pas la première fois que cela arrive. Je veux dire, pas seulement en France, mais un peu partout dans le monde. C'est l'un des signes de la décomposition politique. Le fait que la politique est de moins en moins lisible. Ce fut le cas il y a quelques jours aux Pays-Bas pour les élections européennes, avec le Brexit aux États-Unis, avec l'élection de Donald Trump. Les opinions politiques sont devenues de plus en plus morcelées, volatiles. Personne n'avait prévu le bon score du parti animaliste, un bon score pour une petite liste, plus de 2%. Personne n'avait envisagé les variations du score des Verts, des Républicains ou bien encore de la France Insoumise d'une élection à l'autre, avec des résultats électoraux qui peuvent varier de 1 à 3 depuis 10 ans. Avec une conclusion, ce qui est désormais certain, c'est que plus rien n'est certain.